Il est 9h28 minutes. Alors, est-ce que vous aimez le gin? Est-ce que c'est une boisson qui vous convient? Parce que ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui aiment pas le gin parce qu'ils ont peut-être de vieux souvenirs de leur grand-père qui allait à la chasse avec une bouteille de Dick Hyper, la bouteille avec les épaules vertes, là. Et ça sentait le parfum, littéralement. C'est pas des blagues, là. Alors, mais ça a bien changé, heureusement. Et maintenant, au Québec, on fait des gins d'une qualité exceptionnelle. Et on va en parler avec Madame Gin, Emmanuelle Ricard, la fondatrice du blog madamegin.com, qui est une experte en la matière. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, Louis.
C'est vrai qu'il y a des préjugés à l'égard du gin, hein?
Oui, ils sont en train de tomber de plus en plus. Et même, je te dirais, hier, j'avais une dégustation à l'aveugle.
Oui.
Et j'ai inséré le Dick Hyper dans l'alignement.
Oui.
Les gens étaient surpris. Ils pensaient pas... Tu sais, c'est comme on a redéveloppé nos goûts pour le gin. Et
oui.
Étonnamment, même le Dick Hyper commence à refaire ses lettres de noblesse.
Ah oui, pour vrai?
Oui, absolument, absolument. Ça fait que ça en dit bien, bien long. Mais aujourd'hui, on est vendredi. Tu sais qu'il y a un terme consacré hein, pour ce vendredi avec le gin qu'on appelle le gin-dredi.
Ah oui, je ne savais pas.
Oui. C'est la journée du gin où on se permet là, ouais. Justement d'exploration et c'est le week-end qui commence. Ouais. Donc, voilà.
Bon, mais j'ai fait un autre préjugé. J'ai colporté un autre préjugé tout à l'heure en disant que, en tout cas, moi, j'ai l'impression, parce que les gens autour de moi qui apprécient davantage le gin, c'est souvent des filles.
Il y en a beaucoup, effectivement. Mais je dirais que... Ouais, c'est la nouvelle vague. Je dirais que c'est beaucoup les filles et les filles sont incroyablement collectionneuses.
Oui.
C'est fabuleux. Mais justement, tu sais, ton parallèle avec le parfum, il était pas si bête que ça. Puis moi, je pense que ça joue beaucoup pour ça dans l'intérêt des filles. C'est que tu as beaucoup la notion, justement, de dans chacun des gins, tu as beaucoup de différences aromatiques.
Mm-hmm.
C'est très ludique à ce niveau-là. Donc, peut-être que déjà, les filles avaient une longueur d'avance, justement, avec les parfums. mais oui, peut-être les gars sont aussi whisky, mais il y a énormément d'amateurs, okay. Gars de gin aussi.
Pourquoi on fait du si bon gin au Québec? Qu'est-ce qui s'est passé au cours des, mettons, des 10 dernières années pour qu'on développe autant de gin de qualité? Parce qu'il faut bien le dire, là, on fait du très, très, très bon gin au Québec, là.
Absolument. Il y a deux facteurs là-dedans. C'est premièrement les microbrasseries qui ont ouvert la porte.
Oui.
Vraiment, tu sais, à la consommation différente, parce que mm-hmm. À un moment donné, on a quitté la petite bière générale. Là.
Oui. On s'est dit, il peut y avoir quelque chose de meilleur, là, tu sais.
Exactement. Puis ils ont ouvert la porte plus terroir, région par région, tu sais, l'identification personnelle à sa propre bière de région. Puis bon, ça a commencé avec eux. Et aussi, les restaurateurs, faut bien dire, ont mis beaucoup le terroir à l'honneur depuis plusieurs années. Donc, mettre tout ça ensemble, ça a fait son chemin vers le gin. Les brasseurs sont devenus distillateurs, beaucoup d'entre eux. Donc, c'est ça que ça a créé, tout ce marché-là par rapport au gin, à l'attachement du gin. Puis le gin, ben, c'est le premier spiritueux que les distilleries vont faire pendant que leur whisky est en train de vieillir, parce que ça prend un minimum de 3 ans.
Oui.
De vieillissement. Donc, pendant 3 ans, il n'y a pas d'argent qui rentre dans la distillerie. Donc, de créer un gin, c'est un peu ce qui va faire entrer des sous les premières années.
OK. Généralement, c'est des gens qui vont faire une autre, un autre spiritueux, mais qui est plus long à produire, donc moins rentable.
Exactement.
À court terme.
Exactement.
OK.
Voilà.
Mais c'est fait comment, du gin? C'est fait à partir de quoi?
Ah, il y a toutes sortes de... Si tu veux, ça prend un alcool de base tout le temps.
Ouais.
Donc, cet alcool de base-là peut être fait de deux façons, si tu veux. Il peut être fait plus industriellement, qu'on va appeler de l'alcool neutre un peu industriel. Puis, tu vas avoir l'alcool neutre artisanal qui va être fait par le distillateur lui-même, qui peut être fait de fruits, qui peut être fait de céréales et qui peut être fait aussi de féculents.
Okay.
Tout simplement. Donc, à partir de là, quand on dit alcool neutre, là, tu peux presque changer ça pour... alcool prêt à recevoir les arômes du gin.
Oui, c'est ça. Parce que là, en fait, il y a un processus de macération, c'est ça?
Ça peut être, tu peux refaire une distillation pour aller chercher toutes les huiles essentielles de tes aromates, ou tu peux faire une macération, ou même, ça peut juste être une base d'alcool, comme je disais, dans laquelle on va mettre des essences, qui soient naturelles ou synthétiques.
OK. Parce que moi j'entends dire qu'il y a des producteurs ça peut être de la vodka ou d'autres, qui vont acheter des alcools neutres, mais sur d'autres marchés.
Ouais.
Ça peut être en Ontario, aux États-Unis ou quoi que ce soit.
Ouais.
Et que là,
exactement,
ils vont transformer ça pour le transformer en gin. Mais les puristes disent, non, non, il faut que tu fasses toi-même ton propre alcool.
Ben moi, je dirais les puristes.
C'est qui les puristes?
Dans ce domaine-là. Moi, je dis toujours que c'est la bouche du consommateur qui va choisir parce que j'ai goûté de très bonnes options dans les deux cas.
Okay.
Et j'en ai goûté des pas bonnes dans les deux cas.
Ouais.
Donc, je pense que, est-ce que le gin est bon? C'est la vraie question. Après ça, tu peux ajouter à ça toutes les valeurs de production locale.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'un distillateur qui fait son gin lui-même, son alcool de base lui-même, ben il fait travailler des gens, il achète des grains ou des fruits localement. Tu sais, ça vient toucher des valeurs. Ensuite, pour le distillateur lui-même, ben tu sais, c'est comme un must. C'est comme un sportif qui veut aller aux Jeux olympiques. Ben si tu veux faire son alcool, c'est un peu les Jeux olympiques des distillateurs.
Okay.
Donc, comme c'est des gens passionnés, c'est clair qu'ils vont toujours tendre ouais. vers ça.
Mais pour ouais. faire du gin, est-ce que ça prend nécessairement un alcool qui vient de grains, par exemple? Ou, parce que, entre autres, moi j'ai une amie qui vit dans Charlevoix qui fait un produit qui s'appelle le Charlevoyou. Qui est fait à partir du petit lait, parce qu'eux autres, ils font du fromage. Et puis, ouais. ils prennent le petit lait, ben il y a du sucre là-dedans. Là, et donc, ils le font distiller et ça devient un alcool. Est-ce qu'on pourrait produire du gin à partir de ça et l'appeler gin?
Oui, mais Madeleine, d'ailleurs, elle en fait un gin
ouais.
Sur le voyou. Oui, oui, oui. Elle fait une autre vie, puis elle fait un gin aussi, comme ça. Oui, ça prend juste la création de l'alcool de base, effectivement.
Okay.
C'est tout simplement ça. Puis comme tu le disais précédemment, ça peut être soit acheté à l'extérieur ou l'artisan le fait lui-même. Mais généralement, la différence, quand l'artisan le fait lui-même, cet alcool de base-là garde des arômes.
OK. Mais là, je veux aussi expliquer, c'est quoi les aromates qu'on met dedans? C'est de la baie de genièvre? Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Les aromates, c'est vraiment l'essentiel. C'est la baie de genièvre.
Ouais.
Pas de baie de genièvre, pas de gin.
Okay.
C'est pas compliqué, ça va s'appeler autre chose. Ça va s'appeler un alcool aromatisé, ça
ouais.
va s'appeler une aquavite. Ça va s'appeler... Mais si tu veux appeler ça gin, il faut qu'il y ait de la baie de genièvre. C'est la seule chose, parce qu'il n'y a pas d'appellation contrôlée sur le gin. C'est
okay.
vraiment juste, tu sais, c'est vraiment, on peut faire du gin partout dans le monde, pas comme, admettons, le Calvados, il faut que ça soit fait mm-hmm. à une place. Le Porto a une place, le Champagne a une place particulière. Non, le gin, tu peux le faire partout dans le monde. La seule affaire que tu as besoin de faire, c'est
oui.
mettre du genièvre dedans puis respecter un certain degré là, d'alcool.
OK.
Mais c'est
bon.
Tout.
Bon, là, on va passer aux recettes. Là, parce qu'une fois qu'on a le gin, évidemment, on ne le boit pas directement comme ça. On fait une espèce de recette. On peut mettre des sirops dedans. On peut mettre, évidemment, le tonic, tout ça. Et les toniques, là, on peut sortir du Schweppes là, qu'on achète au dépanneur. Là.
Absolument, absolument. Tu sais que là, on est rendu au Québec, juste au Québec, à 103 gins différents.
103 gins, ah oui, hein?
Ouais. Fait que là, il faut s'amuser un petit peu pour les apprêter.
Oui.
Fait que si tu veux, j'ai comme préparé une petite liste de 5 gins coup de cœur avec lesquels je peux. OK? J'ai préparé ça dans le sens de tu commences à être amateur jusqu'à t'es un amateur.
Okay.
Fait que je vous ai sorti 5 beaux gins. Il y en a un qui s'appelle le Jardin Verdé, qui est
oui.
de la distillerie Blue Pearl de Montréal. Il est très doux. C'est un gin léger qui est à 30 degrés d'alcool seulement. Donc,
okay.
si tu commences dans le monde du gin, c'est parfait. C'est pas trop genièvre. C'est léger. C'est frais. Même quand il fait très chaud, tu vas adorer ça. Les aromates, c'est concombre, basilic, romarin, menthe, genièvre. Et c'est bon avec, on a un beau tonique québécois qui s'appelle le 1642. Le connais-tu, Louis?
Oui, je le connais. Oui.
Oui. Donc, avec le 1642, c'est délicieux, c'est savoureux. C'est vraiment, tu te casses pas la tête. C'est ça que tu prends. C'est un bingo à tout coup.
OK. Ensuite.
Oui. Après, t'as le Rosemont Gin, qui est aussi fait à Montréal par la distillerie de Montréal.
Oui.
Lui aussi, c'est un concombre, mais très fin, avec l'autre aromate, là, c'est très particulier. Louis, c'est le bois de cassis.
Ah,
ça
oui.
vient de l'île d'Orléans.
Oui.
C'est vraiment, tu sais, c'est un goût, tu sais, le concombre, c'est frais, le cassis, c'est un peu sauvage et c'est savoureux. Ça, là, tu le bois juste sur glace avec un peu d'eau pétillante.
Le ah oui, okay.
mon gin,
OK.
Ouais. Ça,
okay.
Tu vas faire l'eau pétillante dans le gin, ça fait toujours ressortir le côté genièvre de ton gin.
OK.
Là, on est sur un beau 40 % très facile, c'est frais, c'est estival, mais c'est un gin qui a une très belle rondeur.
Puis le bois de cassis, c'est juste pour être cuit. C'est des copeaux de bois qu'on met dedans, qu'on laisse macérer?
Oui.
OK. Donc, ça donne la saveur, j'imagine, du cassis en même temps, là, un peu.
Oui, c'est macéré pendant la distillation parce que ce gin-là, il est complètement de couleur translucide.
Okay.
Si tu l'avais macéré après ta distillation, là, tu aurais une couleur dans ton gin.
Okay.
Tous les gins colorés ont une macération après la distillation.
OK.
Est-ce que tu connais le gin Marie-Victorin? Lui?
Non, je ne connais
non.
pas.
Peut-être que tu le connais parce que c'est son nouveau nom, parce qu'anciennement, il s'appelait le Pigé Hendricus.
Ah, OK, oui.
Quelque chose?
Ben oui, bien sûr.
Oui. Ouais. OK, donc c'est le deuxième gin québécois. Moi, personnellement, c'est le gin qui m'a donné un coup de cœur pour le gin. C'est un gin très facilement accessible. Il s'appelle maintenant le gin de Marie-Victorin. C'est fait par les Subversifs à Sorel. C'est fait. L'aromate principal, c'est très particulier, c'est le pané. Tu sais, la carotte blanche?
Oui, oui, oui.
Donc, c'est très savoureux. Et ça, là, tu peux le mixer avec la majorité des toniques, tu ne te trompes pas. C'est un gros coup de cœur qui perdure pour les Québécois.
Okay.
Un très bon vendeur, vous allez adorer. C'est très facilement accessible. Donc, le gin de Marie-Victorin.
Bon, le Wabasso, oui, c'est ça.
Tu connais?
Oui, je connais.
Oui, est-ce que tu l'aimes?
écoute, c'est pas mon coup de cœur.
Non? OK. Ouais. C'est particulier. Il y a une belle fraîcheur quand même là-dedans. Il faudrait que tu le laisses. Si jamais tu le recroises, donne-lui une petite chance avec du ginger ale et de la lime. C'est sublime. La particularité de ce gin-là, c'est que c'est du thé des bois et trèfle rose qu'il y a à l'intérieur comme aromate. Le thé des bois, est-ce que ça dit quelque chose au niveau des saveurs?
Bien sûr, mais oui.
Communément, là, c'est la saveur de la peppermint rose.
Oui, exact.
Donc, c'est peut-être si on aime moins ça, c'est peut-être moins notre gagnant, mais je t'assure qu'avec du ginger ale, c'est vraiment sublime.
Mais du vrai ginger ale, là, pas du ginger ale Canada Dry, là.
Sincèrement, je pourrais faire ma snobinette et te dire que non, tu peux juste acheter des bons ginger ale fancy, mais même celui-là, même avec celui que tu viens de nommer, c'est parfait.
Okay,
c'est parfait.
D'accord.
C'est accessible et très bon.
OK, et là, le gin des saints.
Le gin de la Côte des Saints.
De la Côte des Saints, excusez-moi.
Oui, c'est le gin vraiment que je te dirais connaisseur.
Oui.
Moi, c'est un de mes gros coups de cœur. Dans mes coups de cœur 2020, il y a le deuxième là, que je t'ai nommé qui était le Rosemont Gin et celui-là, le Côte des Saints. Écoute, on est quand même sur un 46 degrés d'alcool.
Oui,
c'est quand même pas mal.
C'est costaud, hein?
C'est costaud, mais c'est tellement fait avec douceur, c'est un alcool de grain. Artisanal fait à la distillerie à base d'orge. L'orge pousse dans leur champ. Là. On voit les champs d'orge qu'ils vont utiliser pour à la distillerie. C'est savoureux. C'est une belle rondeur. C'est vraiment chargé là, aromatiquement parlant. On va chercher de la lime, de la menthe, de la cardamome, de la lavande, du fenugrec, de la graine d'angélique et encore d'autres. C'est savoureux. Comme ça, sur glace, tu le dégustes là, à petites gorgées, tu profites, tu t'assois avec ta bouteille, tu regardes, tu lis ce qu'il y a sur ta bouteille, puis tu en profites parce que c'est vraiment un gin sublime qui a gagné un grand prix à Londres. Imagine, ils viennent de gagner ça, une médaille d'or au Gin Master à Londres. T'sais. Gagner, là, pour des Québécois, gagner un prix pour le gin chez les Anglais, pas rien, là. Tu sais, c'est quand même vraiment la mecque du gin, là. Donc, oui, c'est un excellent produit, puis on peut les féliciter pour ça. C'est vraiment sublime. Donc, ça, c'est mon choix connaisseur.
OK. Bon, là, il nous reste à peine une minute ou deux, là, maximum.
Oui.
Alors, préfères-tu parler de la façon de déguster le gin ou est-ce qu'on se fait des sirops nous-mêmes? Des toniques, en fait.
Les toniques, c'est plus compliqué pour se faire des sirops soi-même parce que ça prend de la quinine.
Oui.
Il y a deux facteurs en ce moment, c'est que la quinine n'est pas facile à trouver parce qu'elle a été complètement rapatrier pour faire les médicaments contre la COVID, là, le fameux médicament qui est en test. Alors, bonne chance pour trouver de la quinine, c'est pas facile. Et en plus, comme la quinine est un médicament, faut savoir la doser. Donc, je me lancerai pas avec vous là-dessus ce matin.
T'es en train de me dire qu'on peut se soigner à COVID en buvant du gin? Non, c'est une joke. C'est une blague.
Ben, je pense qu'on va devenir alcoolo avant d'être soigné.
Oui, c'est un risque.
C'est un risque. mais, la dégustation de gin, ça se fait vraiment tranquillement. Ça se fait sur 3 gorgées. C'est pas compliqué, hein. La première, toujours en dessous de la langue. On prend notre temps. Mais, c'est la première gorgée, ça, on va se le dire en québécois, là, ça fesse toujours parce que tu es dans un alcool à 40 degrés.
Oui.
La deuxième gorgée, ah, là, ton cerveau, il a moins peur. Il va te laisser commencer à goûter ce que tu es en train de déguster. Donc, tu vas commencer à analyser ton gin. C'est à la troisième gorgée que vous allez savoir si vous aimez ou appréciez un gin. Oui. C'est puis, toujours comme ça.
Puis, il faut éviter de l'aérer comme on fait, par exemple, avec un bon vin, n'est-ce pas?
Absolument, parce que sinon, dans votre verre de dégustation, les vapeurs d'alcool vont monter en haut du verre.
Donc, tout ce que vous allez sentir, c'est l'alcool, en fait.
Ah, pire que ça, même, tout ce qui est notre appareil olfactif, c'est un peu comme nos papilles. Si on le brûle avec les vapeurs d'alcool, pendant tout le reste de la soirée, vous n'en profiterez pas. Ça s'appelle l'épithélium olfactif. C'est comme les papilles, il faut que ça se régénère. Si on malmène avec une vapeur d'alcool trop forte, ça va être moins efficace pour la dégustation. Donc non, on ne fait pas ça. On sent juste en haut du verre, mais on n'agite pas le verre comme pour le vin. Mm-hmm. Entre vin et gin, il y a juste une lettre de différence, mais les techniques de dégustation sont complètement différentes.
Exactement. Ah, ben, c'est passionnant. C'est un univers fantastique, le gin, en plus, parce qu'il y a tellement de recettes aussi qu'on peut faire et tout ça. Alors, quand on commence, on découvre un paquet de trucs. On ne sait plus où arrêter.
Absolument. C'est une vraie passion.
Voilà.
Vous avez le choix, hein? Vous adhérez ou vous vous sauvez.
Exact.
Parce que pour le porte-monnaie, ça fait son chemin.
Oui, aussi, parce que c'est assez cher. Eh bien, Emmanuel, merci beaucoup. On peut aller sur ta page, ton site, en fait, madamegin.com, aussi simple que ça.
Oui, ou bien sur vraiment venez sur la page Facebook aussi parce que c'est là où vous allez croiser tous les amateurs aussi, les échanges.
Okay.
Donc, Madame Gin blog sur Facebook, vous êtes les bienvenus, puis vous allez pouvoir voir s'il y a des ateliers aussi qui sont offerts. Puis moi, je réponds toujours si vous avez des questions aussi par rapport à des choix de gin, vous vous questionnez sur n'importe quoi à propos du gin, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre.
Merci beaucoup, Emmanuel. Madame Gin.
Merci beaucoup, Louis.
Salut, au revoir.
Bon vendredi.
Oui, bien sûr. Emmanuel Ricard, donc, est la fondatrice du blog madamegin.com. On s'en va à la pause. On revient tout de suite après. Restez là.